Prise de terre, environnement, nature, cadre de vie.
Bien, chers amis,
je crois que le monde est encore plus nombreux que tout à l'heure. Ça fait encore plus chaud au cœur. Nous allons donc, parce que je pense que la bienséance nous le demande aussi, faire honneur à nos amis italiens. Car ces amis italiens, en fait, ça fait maintenant 30 ans qu'ils se battent.
Je vous demande donc, s'il vous plaît, celles et ceux qui veulent venir, c'est le moment. On y va? Allez, c'est parti.
Une route, une montagne, une frontière, un tunnel et un projet ferroviaire, le Lyon-Turin, qui depuis plus de 30 ans divise les esprits, l'opinion et les citoyens. Bonjour Pierre Isnard.
Bonjour Lucille, on pourrait dire aussi un projet qui rassemble celles et ceux qui n'en veulent pas. À l'image donc d'une banderole déployée au sommet d'un rocher d'escalade par ces manifestants, elle affiche le slogan « Ensemble, stop Lyon-Turin ». C'était le 4 septembre dernier en Savoie où je me suis rendu dans la vallée de la Haute-Maurienne, tout proche de l'Italie. Il y avait 200 personnes, dont pas mal d'élus.
La vallée de la Maurienne, ben justement, parlons-en, parce qu'à l'origine, ce projet ferroviaire visait justement à désengorger le trafic des camions. Camions qui empoisonnaient la vallée, hein, comme on le sait. Donc sur le papier, ce Lyon-Turin, c'était plutôt une bonne idée et un projet écologique au départ.
Alors Lucille, sur le terrain, c'est une autre affaire. Les travaux sont source de nuisances pour les riverains et les millions de tonnes de déblais sortis de la montagne s'accumulent sur des zones humides ou encore sur des anciennes forêts. L'idée de ce tunnel qui permettrait le transport de marchandises et de passagers sous les Alpes a déjà 40 ans. Et après de multiples reports, la ligne pourrait finalement être mise en service vers 2032 pour un coût minimum, Lucille, tenez-vous bien, évalué à 26 milliards d'euros. Ce qui fait beaucoup trop d'argent et de nuisances pour un projet dépassé, selon Micheline, une habitante de la vallée qui distribue des tracts aux automobilistes à la sortie de Modane.
À mon avis, 26 milliards à dépenser, il faudrait savoir où est-ce qu'on pourrait les mettre utilement, quoi.
Là, vous êtes en train de donner de l'information. Par ailleurs, vous avez essayé de bloquer les camions.
On n'a pas essayé. On les a bloqués fin août. On a bloqué des toupies de béton qui étaient censées faire une dalle de 2 mètres sur un puits de ventilation. Donc là, le premier jour, ils ont fait demi-tour. Le deuxième jour, la gendarmerie a interdit aux camions de passer. Et le troisième jour, on s'est fait prendre une amende. Et le cinquième jour, on s'est fait évacuer par les CRS.
Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous mettre sur la route pour empêcher des camions de passer? C'est quand même un geste fort.
Franchement, ça fait 10 ans qu'on fait des réunions publiques, qu'on informe, qu'on fait des concerts pour expliquer le Lyon-Turin, etc. Et ce jour-là, on reçoit l'information à 20h, comme quoi à 5h du matin, 30 camions toupies passeraient dans le village. Là, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder un vase un peu trop plein. Il y a eu un pas de passé, ça nous a fait du bien aussi. On a libéré un pas qu'on n'avait jamais osé passer et ça nous a fait du bien.
Est-ce que vous, Micheline, vous seriez mobilisée de telle façon si les camions ne passaient pas dans votre village?
C'est-à-dire, vous avez raison de poser la question, c'est une évidence hein, que quand on n'a pas la problématique sous les yeux, on s'en informe moins. Le projet a démarré en 2002. Nous, la bascule, elle s'est faite en 2002 quand on a perdu l'eau. Et là, on s'est renseigné sur le projet. Voilà.
Vous avez perdu l'eau, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on a perdu la source qui alimentait le village.
C'est parti.
L'eau, c'est le principal souci des riverains. Début 2003, la source qui alimentait le village du Bourget s'est tarie. En cause, une galerie de reconnaissance de 4 km creusée sous le village et qui a modifié le cours des eaux souterraines. Un effet collatéral reconnu par la société TELT en charge du projet. Le promoteur public binational a d'ailleurs financé les travaux d'un nouveau captage d'eau situé à l'écart du village. Mais d'autres cours d'eau pourraient être affectés. C'est en tout cas ce que craint Philippe Delhomme, l'une des figures du mouvement Stop TELT et coprésident de l'association Vivre et Agir en Maurienne. Il faut dire que la région ne manque pas d'atouts touristiques, mais ça pourrait ne pas durer selon ce militant.
Donc là on est sur la commune d'Avrieux, un lieu touristique très connu qui s'appelle la cascade Saint-Benoît. Donc il y a un ruisseau qui forme une très belle cascade.
On la voit qui se disperse souvent là.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment très très beau. Ouais, c'est très recherché par les gens. Il y a même d'ailleurs un film qui a été tourné ici, c'est Les Rivières Pourpres. Et en fait, cette cascade, en fait, elle est en sursis, tout comme le ruisseau, parce que dans un rapport de Tell qui date de 2017 sur les impacts sur les cours d'eau et sur les eaux souterraines, Tell te dit clairement en fait qu'il y a des risques importants d'assèchement et de tarissement de sources et de ruisseaux. Et le Saint-Benoît, d'où la cascade Saint-Benoît, fait partie de ces ruisseaux qui sont possiblement asséchables par le percement de l'éventuel tunnel.
Moi, je vais vous laisser reprendre un peu votre souffle là, parce que le sentier monte.
On voit bien les deux zones de chantier, donc sur Villard-Rodin-Bourget. La zone la plus éloignée, donc qu'on appelle la zone des tierces, là qui est entièrement déboisée.
Vous estimez qu'il y a combien d'hectares là ?
Là, il y a 17 hectares en fait d'endroits, dont à peu près une dizaine d'hectares de forêts qui ont été entièrement détruites pour justement entreposer des déchets du futur tunnel s'il avait lieu. Et en dessous, on voit il y a une zone très très blanche. Là, c'est l'ancienne zone d'expansion de l'Arc, une zone humide qui était occupée essentiellement par des jardins des habitants. Cette zone-là, aujourd'hui, était surélevée de 5 mètres pour faire une vaste zone de chantier. On voit aussi, il y a là-bas, une autre zone, on voit des sortes d'escaliers. Et en fait, cette partie-là, donc c'est 400 000 mètres cubes de déchets qui ont été sortis pour creuser la galerie de reconnaissance sous le village de 4 km. Et sur la grande zone là de 17 hectares, ils vont entreposer 4 millions de mètres cubes de déchets. On va être embêté par le bruit, par la poussière, par la dévastation pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Donc à Villard-Rodin-Bourget, on pourra dire adieu à notre vie quotidienne, etc. Mais également au tourisme. Qui voudra venir faire de la montagne ici? Qui voudra venir faire du ski dans une zone de chantier comme ça? On est en train, en fait, quelque sorte, de tuer la haute vallée. On va détruire un paysage de montagne.
Descendre un petit peu. Mettez bien vos casques.
Et là, c'est parti pour la descente.
Il y a une bonne fente quand même. Il y a combien de sens?
Est-ce que ça va par rapport à l'aspect?
Ouais. J'aime pas trop l'aspect Léo, mais là, ça va.
Il y a de l'espace quand même. On n'est pas obligé de se coincer dans un boyau.
Non, c'est...
Là, on bifurque sur la galerie de pied de puits. On arrive exactement ici, sous les puits de ventilation. Exactement ici.
Et si on allait jeter un coup d'œil dans ce tunnel? Je suis en compagnie d'Emmanuel Imbert, le directeur à la construction de Telt, et c'est en voiture que l'on s'enfonce dans la montagne, sous le village du Bourget.
Donc le tunnel de base, c'est un tunnel, comme son nom l'indique, qui est situé à la base de la montagne, qui comprend deux tubes et qui fait une longueur d'à peu près 57,5 km, deux tiers côté France, un tiers côté Italie, donc 45 km en France, 12,5 km en Italie. Le tunnel est décomposé en différentes sections.
C'est creusé par morceaux, en fait, pas d'un bout à l'autre.
C'est ça. En fait, on a différentes attaques. On a les attaques des deux têtes et on a un certain nombre d'attaques intermédiaires. Une à Saint-Martin-la-Porte, une à Lapra, une ici à Villard-Rodin-Bourget-Modane et une en Italie à Chiomonte. Et donc, en fait, on va construire l'ouvrage à partir de chacune de ces attaques dans chacune des directions.
Est-ce que vous avez une motivation particulière à participer à ces travaux ?
En tant qu'ingénieur, c'est toujours particulièrement intéressant de participer à un projet de cette envergure, un projet européen, un projet qui a une vocation aussi bien économique qu'environnementale. C'est quelque part une grande infrastructure pour l'Europe de demain.
Qui permettrait quoi, cette infrastructure ?
La vocation même du projet, c'est de favoriser en fait le transport ferroviaire. d'organiser en fait le report modal vers des modes beaucoup plus respectueux du climat. L'ambition du Lyon-Turin, c'est de capter un trafic entre la France et l'Italie et d'organiser un report d'environ 1 million de poids lourds depuis la route vers le rail. En fait, l'essence même du projet, c'est quelque chose qui est très similaire à ce que nos voisins suisses ou autrichiens ont fait, que sont les tunnels de base du Lochbert, le tunnel de base du Gotthard, le tunnel de base du Ceneri ou le tunnel du Brenner qui est également en construction. Le principe, c'est en fait de dire que on a des infrastructures qui existent. Ici, il existe un tunnel ferroviaire, mais ce tunnel ferroviaire, il est en montagne, il est à 1270 mètres d'altitude. Le principe même de construire le tunnel de base, c'est de, comme son nom l'indique, de le construire à la base de la montagne. Évidemment, on comprend bien qu'un tunnel qui est plat, qui est rectiligne, avec des pentes douces, des virages adaptés au transport ferroviaire, sera nettement plus efficace qu'une voie de montagne qui aujourd'hui montre ses limites et ne permettra pas en fait, d'avoir une infrastructure de grande capacité.
Donc là, voilà, nous sommes de retour sur la base vide du chantier. Sous les nuages, un petit 16 degrés. Alors qu'on vient d'un monde où il faisait 24 au fond de la galerie.
Prise de terre.
Voilà, on est revenu à l'air libre après cette visite dans le ventre du tunnel avec Emmanuel Imbert qui dirige donc les travaux. Emmanuel Imbert est ingénieur. Et quand on est ingénieur des ponts et chaussées, évidemment, construire un beau tunnel tout neuf, c'est un peu un graal, hein, c'est presque un couronnement de carrière. Donc évidemment, Emmanuel Imbert est très enthousiasmé par ce projet. Mais d'ailleurs, Pierre, on peut quand même préciser que dans les années 2000, finalement, quasi tout le monde était enthousiaste. C'est un projet qui a séduit beaucoup de monde.
Oui, tout à fait, Lucille, et même Philippe Delhomme, hein, le militant que l'on a entendu tout à l'heure, n'a pas toujours été un farouche opposant à ce Lyon-Turin.
Alors, c'était dans les années 1999-2000, à la suite de l'accident du tunnel du Mont-Blanc le 24 mars 1999, avec 39 morts. Là, je pense que c'était un véritable choc. Et puis, le choc deuxième est l'arrivée massive, puisque le tunnel du Mont-Blanc était fermé, de milliers de camions dans notre vallée. Donc ça a augmenté les risques d'accidents, mais également la pollution, le bruit, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2001, on a rencontré le ministre des Transports de l'époque, qui s'appelle Jean-Claude Guessot, qui est venu à Villars-Rodin-Bourget, qui est venu à Modane, pour nous rassurer, parce qu'évidemment, on manifestait beaucoup, on était véritablement tous à demander du ferroviaire. Et on nous promettait donc le Lyon-Turin. Et on s'était dit, pourquoi pas, c'était une solution, et on nous promettait qu'en 2015... le tunnel donc de base du Lyon-Turin serait ouvert. Nous sommes en 2022, il n'y a encore rien de fait.
Et aujourd'hui, ce serait 2032, voilà, 2033, voilà,
exactement.
Potentiellement.
Et pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? Mais parce que petit à petit, on s'est rendu compte que d'abord, un, ça demandait beaucoup de temps. On ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas la ligne existante. On s'est rendu compte que oui, on nous embarquait sur quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. On a les possibilités aujourd'hui, avec la ligne existante, de faire tout de suite du ferroutage, du transport de marchandises combiné, et ça coûterait beaucoup moins cher, ça n'amène pas de dégâts, et c'est simple en fait.
C'est même un peu la cerise sur le gâteau, Pierre Isna, parce que en fait, ça fait 40 ans que le Lyon-Turin n'est toujours pas en service, donc on l'attend, et depuis tout ce temps, on aurait pu faire rouler les trains là où ils roulent déjà finalement, c'est-à-dire dans cet autre tunnel, et si je ne me trompe pas, c'est le tunnel du Fréjus.
Et oui, c'est ce que disent les opposants, hein. Ce tunnel dont vous parlez, il est en service depuis 150 ans et aujourd'hui, il y a des trains de marchandises qui circulent et même des TGV.
Alors, pourquoi faire compliqué, on a envie de dire, hein, et polluant, en tout cas dans la phase de construction du chantier, quand on peut faire simple?
Eh bien, peut-être parce que ce n'est pas si simple, Lucille, justement. C'est en tout cas ce que défend Stéphane Gugino, qui est le délégué général de la Transalpine. Alors, attention, Lucille, il faut préciser que la Transalpine, c'est un lobby, le lobby de la construction et des collectivités en faveur du nouveau tunnel.
Il existe aujourd'hui une liaison avec un vieux tunnel qui a aujourd'hui 150 ans. Ce tunnel, aujourd'hui, il est considéré comme totalement obsolète par l'ensemble des professionnels du fret ferroviaire. Et en ce sens, on s'inspire de ce que les Suisses ont réalisé en réalisant les nouvelles liaisons ferroviaires alpines. Donc il s'agit de réaliser une ligne à haute performance, qui ait une très bonne capacité, qui soit compétitive par rapport à la route. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour opérer un report modal massif du trafic routier, véhicules légers et surtout poids lourds, sur le rail. Il y a une urgence écologique, on le sait, et la décarbonation des systèmes de transport est aujourd'hui non seulement une urgence, mais aussi une nécessité sur le long terme.
Il y a des opposants qui recommencent à manifester là depuis la fin de l'été et qui s'inquiètent notamment des conséquences sur l'eau du fait que le tunnel fonctionnerait comme un drain qui modifierait la circulation des eaux souterraines.
Il est clair, comme tout chantier de ce type, que la réalisation du tunnel sous les Alpes a des incidences sur l'environnement. C'est une évidence, mais ces incidences, il faut les considérer sur la durée de vie de l'infrastructure. Et dans tous les cas, sur une infrastructure qui est vouée à fonctionner pendant plus d'un siècle, le bilan est toujours positif en termes environnemental, en termes économiques, c'est toujours positif. Donc la réalité, c'est qu'il y a des contrôles qui sont rigoureux, s'il faut les renforcer, on les renforcera, mais la réalité, c'est que depuis 20 ans, il n'y a pas eu un seul problème d'assèchement des eaux sur le chantier du Lyon-Turin.
Il y a la Cour des comptes qui a fait un rapport en 2012 s'inquiétant de la rentabilité de ce futur tunnel. Est-ce que c'est pas aussi une des raisons qui ferait réfléchir pour la suite sur ce projet ?
Alors, s'agissant de l'évaluation de la Cour des comptes en 2012, elle avance des chiffres qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité, puisque le chiffre de 26 milliards incluait des options de long terme qui ne sont pas étudiées aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Lyon-Turin, c'est 20 milliards d'euros, avec une prise en charge quasiment pour moitié par l'Union européenne. Donc la soutenabilité financière repose sur la mutualisation des coûts entre la France, l'Italie et l'Union européenne. Le rapport de la Cour des comptes auquel vous faites allusion évoquait la question de la rentabilité. Nous sommes en désaccord avec cette analyse. Et surtout, on connaît la frilosité des grandes administrations pour les investissements de long terme. Aujourd'hui, l'urgence écologique, elle est là. Il y a nécessité de reporter les trafics de poids lourds. Donc c'est une rentabilité évidemment sur le long terme, mais qui n'est pas qu'une rentabilité financière, qui est aussi une rentabilité écologique et sociale.
Pas de problème d'eau, pas si polluant, plutôt écolo-compatible, selon Stéphane Gugino de la Transalpine, qui donc, on l'a bien compris, défend le projet. Mais après tout, Pierre, est-ce que finalement les opposants ne se trompent pas de combat ?
Eh bien, je vais vous étonner, Lucille, mais ce n'est pas le point de vue des opposants à ce Lyon-Turin. Il ne manque pas d'arguments solides, comme ceux qu'évoque Daniel Ibanez, tête pensante de ce mouvement Stop Telt.
Toutes les administrations centrales, toute la haute fonction publique, les inspecteurs généraux des finances, les ingénieurs des ponts et chaussées, la direction générale du Trésor, les magistrats de la Cour des comptes française, ceux de la Cour des comptes européenne, disent que ce projet n'est pas nécessaire, que l'on peut travailler avec la voie existante, et encore le Conseil d'orientation des infrastructures l'a dit en 2018. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas transporter des marchandises par le train. C'est ce que nous réclamons, et d'ailleurs on a fait tout un travail que l'on présente régulièrement pour démontrer que c'est possible. Mais c'est possible sur la voie existante, qui permet de faire circuler les marchandises d'environ 1 million de poids lourds. Donc on peut sortir dès aujourd'hui 1 million de poids lourds avec la ligne ferroviaire existante, et sans aller dévaster les territoires, sans aller tarir les sources, sans assécher la partie de la montagne où serait creusé ce tunnel. Et donc c'est simplement une question de bon sens, de préservation de l'environnement et surtout de l'utilisation rationnelle de l'argent public. Parce qu'on est en train de parler de milliards d'euros. On peut considérer qu'il nous faut dépenser 30 milliards d'euros, avoir une ligne extrêmement performante, etc., etc. Mais on ne sait toujours pas utiliser, comme elle l'était dans les années 80 et dans les années 2000, la ligne ferroviaire existante. Et donc, la question, c'est que non, on ne porte pas atteinte ni à l'environnement et on ne dilapide pas l'argent public lorsque on a déjà un outil que l'on peut faire travailler. Et, cerise sur le gâteau, la Fédération nationale des transporteurs routiers a signé avec nous une lettre à la ministre des Transports pour lui dire « Madame, mettez à notre disposition des navettes de transport ferroviaire, nous les utiliserons dès aujourd'hui sur la voie existante.
Et sur la question des voyageurs, on peut imaginer, puisqu'on a des TGV qui vont de Paris à Milan, qui passent par cette vallée, déjà aujourd'hui, on pourrait imaginer un temps de parcours plus court, qui inciterait peut-être plus de monde à prendre le TGV plutôt que l'avion entre Paris et Milan.
Vous avez raison, vous avez parfaitement raison, parce qu'effectivement, faire une ligne à grande vitesse permettrait d'aller plus vite. Mais juste pour rapporter les choses à leur juste mesure, aujourd'hui, de la même manière, avec le train existant, avec les voies existantes, on peut le faire en 5h30 Paris-Milan. 5h30 pour faire 900 km, on peut considérer que c'est encore raisonnable. Mais de fait, on le fait en 7h, pourquoi ? Parce qu'on s'arrête 9 fois. Vous vous arrêtez pas avec un nouveau projet à 30 milliards, vous le faites en 4h15. Je veux bien qu'on nous explique que pour gagner 1h15, il faut dépenser 30 milliards, mais il va falloir que ceux qui prétendent ça mettent leur garantie personnelle sur ce financement. Sur le tunnel sous la Manche, vous savez qu'il y a des petits actionnaires qui ont acheté. Là, comme par hasard, là, ils n'ont plus envie d'avoir des actionnaires. Vous avez les actionnaires, bien sûr, se sont fait pigeonner une fois, ils ne vont pas revenir une deuxième fois. Donc finalement, on trouve que ça serait mieux que ce soit l'État. Et donc, ce sont les contribuables. Il y a quelque chose d'indécent à vouloir faire une ligne soi-disant à grande vitesse pour gagner 1h15 à 30 milliards d'euros.
Bon, il y aurait presque, dans les propos de Daniel Ibanez, il y aurait presque un petit côté « not in my backyard », hein, pas dans mon jardin. Mais finalement, la seule vraie question que l'on doit se poser, c'est de savoir si ce projet, 40 ans après sa conception, est encore pertinent.
Eh bien, pas forcément. Vous avez raison de poser la question, Lucille, parce que beaucoup de choses ont changé en 40 ans. Les flux commerciaux ne sont plus les mêmes. Peut-être qu'à force d'attendre l'entrée en gare de ce Lyon-Turin, ils sont allés s'épanouir ailleurs. Écoutez en tout cas ce qu'en dit Dominique Dore, député de droite de Savoie de 1997 à 2017, et qui, en tant qu'élu, a suivi l'évolution de ce projet.
Ce projet, c'est un projet qui est en fait né dans les esprits dans les années 80. Si vous voulez, on justifiait ce projet par le niveau d'équipement industriel français qui irriguait pas seulement l'Italie. L'Italie étant un couloir pour accéder notamment à la Méditerranée, etc., pouvoir livrer des choses dans le monde entier. Aujourd'hui, le système est un peu différent. Les usines du monde sont grosso modo en Asie. Les produits manufacturés arrivent en Europe, pour celles qui nous intéressent principalement au port de Gênes, elles n'ont plus tellement de raisons de passer par un tunnel entre l'Italie et la France, sauf pour desservir la France, mais tout ce qui dessert l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, en fait contourne la France, passe en Autriche, passe en Suisse, mais passe pas par chez nous. Donc en réalité, la source, l'origine même, de ce projet qui était un projet visionnaire, bah, c'est un peu tari. Aujourd'hui, faut-il continuer à défendre ce projet des années 80 pour les années 2030, c'est-à-dire presque 50 ans plus tard? Disons que ça se discute. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas trop de camions sur nos routes et que tout ça serait beaucoup mieux sur le train, etc. Mais en tout cas, la croissance exponentielle du trafic de marchandises sur les autoroutes alpines n'est pas au rendez-vous. Et donc, la justification, elle est contestable.
Vous dites qu'il faut rouvrir le débat, alors, en quelque part, si je comprends bien.
Moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat parce que s'il y a assez d'argent public en Europe et en France et en Italie pour payer un ouvrage qui ne sera pas d'une utilité fantastique, mais qui sera utile quand même, hein, qui allégera le trafic sur les routes, moi je suis tout à fait pour. Mais si vous voulez, il n'a jamais été prouvé jusqu'à ce jour que cet ouvrage serait rentable d'un point de vue socio-économique. Et donc, à l'époque, il y a eu un rapport.
Donc un rapport de la Cour des comptes, c'est ça ? En 2012, et ça a été ça le point de départ donc de vos doutes ?
Bah, disons que quand vous avez la Cour des comptes qui vous dit que ce truc-là, que sa rentabilité socio-économique, pas seulement économique, hein, n'est pas prouvée, ça fait un peu peur. Doit-on imaginer de dépenser, je sais pas combien ça sera à la sortie d'ailleurs, probablement entre 25 et 30 milliards d'euros pour une infrastructure qui sera déficitaire ensuite chaque année, et par ailleurs, si on met des sommes pareilles dans une liaison comme celle-ci, c'est évidemment autant d'argent qu'on n'aura pas pour entretenir le réseau national, développer des nouvelles lignes TGV, etc., alors qu'on a besoin, puisqu'on a une infrastructure ferroviaire qui est vieillissante à travers tout le pays.
Donc on résume, trop cher et obsolète ce Lyon-Turin. C'est ce que semble dire d'ailleurs, je crois, pas mal d'experts. Hein. Mais le problème quand même, c'est que ce chantier, il a démarré, il a déjà commencé. Et donc on a investi déjà de l'argent, Pierre.
Et seulement 9 km sur 57 ont été creusés. Ce qui choque aussi les opposants, c'est le coût pharaonique. 26 milliards d'euros, je vous le rappelle. Le double du budget qui a été engagé pour le tunnel du Saint-Gothard. Alors sur ce point, même la Cour des comptes française est sceptique. La mise en service du nouveau tunnel est projetée pour les années 2030, soit avec 20 ans de retard par rapport à l'agenda initial.
En même temps, on peut se dire que s'il y a autant de retard, c'est peut-être aussi un peu à cause des oppositions, non ?
Oui, en partie, surtout du côté italien, où le mouvement Notav pratique le sabotage de chantier. Et on peut s'interroger aussi sur la relative mollesse du gouvernement français qui ne semble pas s'enthousiasmer. Il n'a toujours pas fixé le financement et le trajet de la nouvelle ligne sur son territoire jusqu'à l'entrée du tunnel international.
Bon, finalement, Pierre Isnard-Dupuis, ce Lyon-Turin a-t-il une chance un jour peut-être de voir la fin du tunnel ?
Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, ça dépend d'une décision politique. En Italie, le gouvernement est très motivé, mais en France, ce n'est pas vraiment un sujet national. Hors de la région où le projet se situe, en fait, ce débat n'intéresse pas grand monde.
Voilà, mais il nous intéressait, nous, ce matin, à Frise de Terre. Merci beaucoup, Pierre Isnard-Dupuis, pour ce reportage dans la vallée de la Maurienne sur le chantier de ce projet et de ce serpent de mer qui est le tunnel du Lyon-Turin.